un peu par un coup. Donc on peut aussi quelquefois, dans une négociation, demander une première base de fixe et avoir aussi un rapport, mais qui ne soit pas une avance, qui soit une reconnaissance du travail qu'on effectue. C'est aussi dans les possibilités qu'on peut envisager. Parce que dans tout ce que je vous entends pour pourcentage, il y a quelquefois le pourcentage fixe qui est sur 6%, quel que soit le nombre d'exemplaires. Alors, ce n'est pas toujours le cas de la négociation. Il y a quelquefois des pourcentages variables suivant le volume qui est donné. Donc, c'est compliqué de refaire une moyenne là-dessus quand tu as des gens qui ont un petit peu faussé en disant « Moi, j'ai touché 8%. » Oui, mais parce que j'ai vendu 50 000 exemplaires. Si j'en avais vendu que 5 000, j'aurais eu que 4%. C'est tous ces rapports-là qui sont compliqués. Donc le salaire va déjà passer par une reconnaissance du métier qu'on a. Je pense que c'est essentiellement la stage, on doit se battre là-dessus, quoi. C'est qu'on ait un vrai métier, dans quelle case on se case au départ. Après, on verra comment on peut être rémunéré. Mais je pense que c'est aussi à regarder par l'ensemble de la chaîne. Et pas qu'on soit juste ceux qui produisent et puis qui ont le droit à un pourcentage sur cette affaire. On produit un vrai boulot, quoi. Aussi bien en développement qu'après, dans l'accompagnement du produit, sans aller jusqu'à la vente.
Je suis complètement d'accord avec toi. Et pour te répondre, c'est cette question qui a été abordée lors du dernier rassemblement APEL. Donc c'est marrant qu'on le retrouve ici. C'est la notion du travail de l'auteur. C'est-à-dire qu'à APEL, Bruno Fiduti et Charles Chevalier disaient... Non, moi je trouve qu'on ne devrait pas être payé plus parce que finalement, par exemple, on ne devrait pas être payé dans le principe autant qu'un auteur de roman parce que dans le principe, c'est quand même pas le même travail. On ne fait pas le même travail. Alors, là où je veux revenir, et ce qui est intéressant, parce que ça rejoint ce que tu dis, en fait, tout le travail qu'on fait en amont de la création d'un jeu, nos droits d'auteur, ils ne nous rémunèrent pas ce temps-là. Ils ne nous payent pas ce temps-là. En fait, on ne sera jamais rémunéré de ce temps-là, jamais. C'est pour ça que compter ses heures, essayer de faire valoriser le temps passé, les déplacements, tout ça, ça n'a aucun sens. Nos droits d'auteur, c'est de la propriété intellectuelle, ce n'est pas un salaire. Ce sera, et il ne faut pas que ça le devienne. Parce que dans ces cas-là, regarde, ça voudrait dire que si on voulait être rémunéré, ce serait le serpent qui se mord la queue. Au temps passé, ce serait absurde. Quelqu'un qui passe 2 ans à faire un jeu parce qu'il le fait mal... Dans ces cas-là, il devrait être payé beaucoup plus qu'un professionnel qui a mis 2 mois parce qu'il connaît son métier et qu'en 2 mois, il a bien développé son jeu. Ou alors, tu as une pure idée, en 3 jours, c'est fait. Tu vois ? En 3 jours, c'est fait et tu serais rémunéré que dalle parce que ça t'a pris peu de temps. Donc, se rapporter au temps de travail que ça a demandé, c'est à mon avis, ça n'a pas de sens. Si par exemple, on reprend un autre métier de la création, carré noir sur fond blanc, une toile, le quadrangle qui a été vendu plusieurs millions de dollars à New York, tu vois ? Je crois que ça lui a pris combien de temps, tu vois. Si on se rapporte au temps de travail...
Enfin, lui, c'est pas très grave, s'il touche pas.
Non, mais justement, lui, voilà. Bref, pour moi, ce pourcentage qui est donné par les droits d'auteur, il faudra jamais vouloir chercher à le considérer, à le faire considérer comme un salaire pour notre temps passé. Jamais. Parce que là, on va rentrer dans un truc où les gens vont dire « Ah ouais, ah ben, fais-moi des relevés horaires ou des trucs. » Non, non, c'est de la propriété intellectuelle. C'est très différent. Et dans ces cas-là, ça veut dire que, quel que soit le nombre d'exemplaires vendus, quel que soit le temps que j'ai passé à le créer, 2 semaines, 2 ans, 10 ans, je toucherai tant sur chaque exemplaire vendu, et c'est tout. Et c'est notre façon de vivre de ça, c'est notre façon de faire notre métier. On n'est ni à l'heure, on n'est pas rémunéré, je te fais ton meuble, j'y ai passé 4 heures et je te le fais à temps.
C'est la différence on est très loin de tout ça. Un travail manuel, un travail artistique. Enfin, c'est
ou de prestation, c'est différent.
Si on veut considérer le jeu comme un objet culturel et une démarche artistique, on est obligé d'être sur cette notion-là.
Sur ce créneau-là, quoi. Moi, sinon, je suis graphiste indépendant par ailleurs, je travaille à la prestation aussi. Donc, je suis capable de dire combien d'heures ça va me prendre. Je fais un devis et je fais une facture. Après, je suis payé en fonction du temps passé. Pour le jeu, on ne peut pas raisonner comme ça, c'est pas possible. Parce que dans ces cas-là, on se tire une balle dans le pied.
Ou alors c'est des jeux sur commande, mais c'est encore une autre démarche.
Bah, une prestation de jeu promotionnelle pour une entreprise voilà. Ou
si
quoi.
Si c'est une démarche artistique, dis, bah, ça vient de moi, c'est mon idée, j'ai envie de développer ça, ça, tu peux pas...
Est-ce que tu comprends pourquoi comment je vois ça ?
C'est une optique un peu plus professionnelle de démarche de janvier. Mais des gens qui feront un ou deux jeux qui seront tirés à peu d'exemplaires, c'est quand même une majorité de gens... qui sont tirés entre 2000 et 5000 exemplaires. Ça, c'est... Quelle va être la différence entre le fait de te payer forfaitairement ou te donner un pourcentage ? Sur 5000 exemplaires, tu vas toucher quoi ? 2000, 3000 euros ? Et si on te les paye forfaitairement, tu touches pas moins, pas plus. Et ce jeu, le seul pari que tu fais avec le pourcentage, c'est que le jeu peut grimper, exploser et que tu vas en vendre beaucoup. C'est une réalité dans notre métier ou pas, ça ? C'est ça qu'il faut. Pour combien ? Tu parlais tout à l'heure de ceux qui se développent bien et de ceux qui ont du mal à en vivre.
Il y a des paliers intermédiaires quand même.
Voilà. Et donc, du coup, c'est une espèce de minima garantie. C'est à ça que je voulais en venir. Que d'avoir une rémunération.
C'est le principe de l'avance sur droit, en fait. Et ça sert d'engagement de l'éditeur.
On pourrait dire, peut-être qu'on pourrait réclamer systématiquement
l'avance sur droit. Ouais. Ça fait des leviers. Voilà, c'est
dans les contrats. Ouais.
Parce que souvent, en vrai, l'avance sur droit, c'est quelquefois compliqué.
Déjà, il y en a plein qui n'en proposent pas. Après, ça n'empêche pas que si ça se trouve après le jeu, enfin bref, on ne sera pas signé.
Ça serait intéressant aussi d'avoir un état des lieux.
De l'avance sur droit,
moi, j'ai aucune idée de. Il y a beaucoup de.
Moi, j'entendais Bruno Catalaca qui me disait des fois, je suis moins dur sur mes pourcentages de droits d'auteur. Par contre, je demande des avances sur droit beaucoup plus importantes. Parce que je sais que mes pourcentages, suivant l'éditeur à qui je m'adresse, j'aurai du mal à les récupérer. Donc, il préfère avoir l'avance.
Ouais.
Comme tu disais tout à l'heure, on fait une espèce de classement sur.
Enfin, les plus petits ont plus de mal à sortir des grosses avances sur droit que les plus gros. Donc, je sais pas si.
Et pourtant, c'est des fois, il y en a qui en donnent. Moi, c'est les petits qui donnent des avances sur droit plus que les gros.
Mais... Ouais, c'est l'inverse.
Bon, bref.
Comme quoi. Mais c'est vrai qu'en demander, c'est un truc important aussi pour ne serait-ce que impliquer l'éditeur qui
est. Ouais, en fait, c'est l'engagement.
C'est une sorte d'engagement. Et puis après.
Voilà.
Il y a effectivement, en fonction de l'éditeur, si tu sais que c'est un petit éditeur qui n'a pas beaucoup de trésorerie, mais qui est super motivé, tu auras tendance, mais je crois que Bruno aussi en parlait de ça. Tu t'adaptes, tu demandes quelques centaines d'euros pour quelqu'un qui est vraiment. Tu sais qu'il se donne à fond et que voilà, que c'est un tout petit. Quand c'est un gros éditeur et que tu sais qu'il vaut mieux demander un peu plus parce que ton jeu risque d'être noyé dans une production un peu importante et du coup. Et puis eux, ils ont de la trésorerie.
Tu voulais dire quelque chose, Pilon ?
Oui, juste par rapport à la base de la discussion qui était la collecte des données.
Ouais.
Moi, je pense qu'effectivement, l'anonymisation est quand même peut-être un premier pas à faire plutôt, et à voir ce que ça peut permettre déjà d'avoir comme un fond, quitte à peut-être changer plus tard, mais au moins, c'est un peu le premier pas qui.
Oui,
peut-être
qu'il
y aura le plus de.
Oui, monde qui si va c'est techniquement possible, on le fera.
Ouais. Parce que on va avoir. Pas mal de gens qui voudront pas.
Je me demandais justement, je me posais la question. Ouais, tu penses aussi. Ouais.
Je pense aussi. Oui. Il y a pas mal de tabous.
Moi, techniquement, ouais, je sais qu'il y a un tabou, mais c'est pour ça que ça. Ouais. Déjà, je pensais qu'en le disant que le nom, ça... mais non. Mais techniquement, ça me paraît assez difficile. Mais si tu me dis que, que ça se fait facile.
Non, mais même sur le fait de citer les éditeurs, pour moi, je pense que. Ce serait bien d'aller jusque-là.
Après, de toute façon, c'est aussi le but de l'association, c'est de communiquer entre nous. Donc, les éditeurs qui paieront 2% de droits d'auteur,
on va finir par le
but, c'est qu'on les... Moi, je ne connais pas, mais j'ai appris qu'il y avait des... mais ça m'intéresse.
Il y en a, parce que... mais le truc, c'est que ça, comme c'était dit sur le groupe Facebook, c'est une communication que certains on a parce qu'on se connaît, mais il y a plein d'auteurs amateurs qui n'ont pas de relations, qui habitent dans des zones géographiques où il n'y a pas d'autres auteurs, pas d'autres rassemblements. Ouais, eux, ils ne sauront jamais ces infos.
Si on dit attention, il y a 5% d'éditeurs qui payent 2%.
Et que le type, on lui propose un contrat à 2%,
il va dire oui, putain, oui, là, il y a un problème.
Oui, ça donc ce sera pertinent.
C'est lui alors,
effectivement, 2%. Mais après, on va tâcher de faire les données anonymes.
Et il y a aussi autre chose d'important, c'est que les éditeurs ont le droit d'évoluer. Ils peuvent avoir été des mauvais payeurs et puis avoir changé de politique.
Ça,
et
sinon, on les condamne un peu. Quoi.
Voilà. Et du coup,
moi, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, si on pouvait mettre leur tête sur la
tête. À chaque fois, tu t'en parles.
Mais du voilà, donc il ne faut pas non plus.
Oui,
il faut se méfier.
Non, mais tu as raison, mais c'est la meilleure façon de
parler. Il y en a qui reconnaissaient avoir des pratiques assez déplorables avec certains. Alors, ce n'est pas avec les auteurs, c'est plus que j'en connais avec les illustrateurs qui étaient vraiment prêts à chercher vraiment la négo, etc. C'est leur variable d'ajustement, en fait, c'est le seul truc. Et du coup, parce que nous, c'était à peu près réglé, c'est-à-dire si c'est 6%, 7%. Mais voilà, et bon, il s'est pris un retour de bâton et maintenant, il a beaucoup changé ses pratiques. Donc voilà. Il faut aussi accompagner.
Il faut leur laisser
et faut laisser une chance.
Donc, ça, c'est pour les actions, si on essaie de se remettre un peu dans la structure de l'ordre du jour.
Et je me dis que, en fait, si on fait une consultation anonyme, si on voit, s'il apparaît des données un peu choquantes, en fait, toujours possible à faire de lancer un appel et de dire on a vu ça, manifestez-vous, on aimerait bien en savoir plus, quoi.
Ouais,
voilà. Voilà, non ?
Si, si.
Ouais,
des appels publics comme ça. On a vu qu'un auteur a déclaré un contrat.
En privé, quoi.
Mais tu fais l'appel public, enfin, tu vois.
Le danger, c'est qu'on ait des trolls qui rentrent n'importe quoi.
En fait, moi, c'était ça qui m'emmerdait. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais du mal. Je préfère que ce soit nominatif avec les noms, les jeux, parce que juste, je sais que c'est bête. Personne va venir aller foutre des chiffres bidons. Il n'y a pas d'éditeur qui va venir faire remplir par 10 bots des questionnaires pour faire grossir les pourcentages. C'est bête, je sais que personne ne va le faire. Mais j'aimais bien pouvoir, rien que l'idée d'être sûr de nos données, de pouvoir prouver nos données Et du coup, d'avoir des noms des jeux et des gens, ça permettait d'avoir des données factuelles avec des jeux et qu'on pourrait éventuellement recouper. Autre chose, c'est qu'on a l'intention, en amont de cette consultation, de demander aussi leurs données aux éditeurs directement.
Ça serait déjà bien.
On va le faire. Après, moi, je pensais qu'il serait peut-être difficile pour eux de le faire, puisque déjà, ils ne veulent pas les donner entre eux. Mais je me trompe peut-être. Et j'espère qu'ils seront prêts à le faire, ouais, carrément.
Ça dépend de certains.
On va essayer. En tout cas, en amont de la consultation, on va aller voir la web, on va leur dire, voilà, on veut faire ça. Est-ce que vous pouvez nous donner vos chiffres, déjà, vous ? Et on pourra en tirer quelque chose, quoi. Et on verra bien ceux qui veulent ou ceux qui ne veulent pas le faire.
Un pré-sondage pour savoir pour ou contre l'anonymisation, un truc rapide, oui, non. Et puis, comme ça, tu as l'idée sur les 100 qui ont fait leur consultation, combien on serait prêt à donner leurs données. Si tu en as 80%, tu dis, bon, bah, c'est suffisamment fiable.
Il faut s'assurer qu'on ait un résultat fiable. Et c'est vrai que.
Il y en a qui ne sont pas auteurs.
Oui, c'est ça.
Là-dessus, on en a parlé un petit peu à Paris Ludique, parce qu'il y a des...
Il faudrait le faire auprès des adhérents par mail, en fait, avec notre base de données d'adhérents.
On en a parlé déjà avec Paris Ludique, c'était un des retours, on était beaucoup plus nombreux à Paris Ludique, et il y avait quand même ce compromis à trouver entre... Il y a un conseil d'administration qui va prendre des initiatives, et il y a un nombre d'adhérents très très large, enfin j'espère le plus large possible, qui fait remonter des choses. Mais entre sans arrêt consulter le groupe...
On n'avance pas.
Le grand groupe, on n'avance pas. Et si par contre, nous, on est trop fermé, ben, on va faire des choses qui sont à contre-courant de ce que le grand groupe voudrait. Il faut trouver un compromis. Mais je ne sais pas si le sondage, ce n'est pas aussi la porte à. On l'a vu sur le nom, par exemple, de Société des auteurs de jeux. On a proposé à qui pense quoi. Ce n'était pas si évident que ça, finalement, à jouer avec.
Ça a fait 30-30-30-30. On aura dit les présidentielles. Quoi. C'était n'importe quoi. Donc il n'y avait pas consensus. Mais après, ce n'est pas dit que ce ne sera pas toujours le cas hein, ou que ce ne sera jamais le cas. Il faut voir. Mais effectivement, déjà, si on fait un sondage auprès des adhérents par mail avec les mails qui ont été donnés à l'adhésion. On aura déjà une première idée de quoi faire avant, ça peut être le cas. Et puis après, on verra justement dans quelle direction s'orienter, ça peut être pas mal. Donc à l'automne, de faire un premier sondage. On s'apprête à faire la consultation, est-ce que ça vous va si c'est anonyme ? On voudrait pouvoir fiabiliser les données, donc vous préférez les faire nominatives, mais en amont, juste. Les données ne seraient jamais publiées. Voilà, c'est juste pour s'assurer de la fiabilité des données, de pouvoir les produire si on nous les demande.
Il faudrait. Et tu peux donner le mettre sur blanc, ça. En fait, il faut poser le pour et le contre.
Bon, on en reparlera. Ok.
On en parlera.
On en reparlera entre nous, mais l'intention, c'est ça, c'est de produire la consultation.
Tu parlais de regroupement en Allemagne également, ouais. où il y a des regroupements dans d'autres secteurs, dans d'autres secteurs comme. Je parle du jeu vidéo parce que je connais et que c'est proche finalement. Eux, ils ont eu les mêmes problématiques, donc il faudrait aussi se rapprocher.
Alors, on est en contact avec eux déjà. Moi, je suis en contact avec la FRAG que tu connais peut-être dans le jeu vidéo. Voilà, je ne sais plus que veut dire l'acronyme là, mais c'est à peu près comme la SAGE, mais dans le jeu vidéo. Enfin, c'est les indépendants du jeu vidéo, c'est les game designers indépendants, ce qui est encore différent. Mais voilà, et avec la SAS, donc la Société des auteurs de jeux allemands, on est en contact avec eux. On a prévu de se rencontrer physiquement à Essen, parce que Allemagne, tout ça. Mais d'ici là, en fait, nous on leur a dit, bah oui, on veut faire des choses avec vous, c'est cool, on veut bien communiquer, mais pour l'instant, on existe à peine, le site il a un mois, on attend que nos adhérents arrivent. Enfin voilà.
La question, c'est peut-être de leur poser, est-ce que eux ils font.
La SAS n'a pas tout à fait la même chose, la même stratégie que la.
Le truc, c'est que la SAS, ils n'ont pas tout à fait les mêmes, ils n'ont pas pris le même chemin que nous. C'est-à-dire que eux, ils sont partis sur un regroupement que moi perso, je trouve assez élitiste. Nous, à la SAS, on veut être assez inclusif. C'est-à-dire, on a mis l'adhésion à 15€ pour une adhésion à vie. Les auteurs débutants, ils sont bienvenus. Au contraire, on veut les informer et on veut leur être utile autant qu'aux auteurs qui souhaitent se professionnaliser. La SAS, c'est genre 85 balles à l'année minimum. Et je veux dire, c'est du gratin, quoi. Enfin, c'est quelque chose. Et Théo Rivière, qui fait partie du conseil d'administration, a déjà parlé avec un de leurs membres. Le membre de la SAS dit, apparemment, on ne trouvait pas très pro. Mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas la même vision du truc à la base. C'est-à-dire que nous, on essaie de faire quelque chose de vraiment inclusif. Et que, pas forcément, où on essaie de mettre qu'on a trois têtes d'affiche, fait du tige, Charles Chevalier, Bruno Catala chez nous, c'est cool. Non, nous, on veut représenter tous les auteurs au même titre.
Mais c'est la problématique du métier d'auteur de jeu, c'est que c'est un métier qui est pour une grande partie amateur.
Oui, mais c'est la façon de le mettre en avant. C'est-à-dire que eux, sur leur site, tu vois, il y a un bandeau avec tous les. C'est toi qui disais ça, Will, et avec tous leurs grands auteurs qu'ils ont, leurs grands membres éminents, machin. Nous, on se veut un truc où, au contraire, on ne mettrait pas un auteur en avant plus qu'un autre. Parce qu'il est dans, il a fait le site internet. Non, on ne veut pas en mettre un en avant plus qu'un autre. Ce n'est pas le but. Je veux dire, les auteurs connus, ils sont déjà connus par ailleurs, ils n'ont pas besoin non plus d'être sur le site, enfin, ça, on s'en fout, quoi. Au contraire, il faut être utile à tous, au même titre. Voilà. Pour l'instant, c'est le chemin qu'on a choisi avec le conseil d'administration. Et d'ailleurs, après, si les adhérents ne sont pas d'accord et qu'ils veulent qu'on mette les stars en photo sur la une du site internet, moi, il n'y a pas de souci.
D'ailleurs, appel, on avait deux, trois anciens qui nous ont dit c'est cool ça. Enfin, ils ont plutôt validé la démarche.
Ils avaient l'air plutôt pour.
Mais... Oui, parce qu'en fait, les stars, comme tu dis, elles n'ont pas vraiment besoin de la SAS. C'est pas forcément eux. Ils ont déjà des rapports directs, ils ont déjà des. Ils
ont leur réseau, ils ont
un fonctionnement fiscal.
Et c'est ce que disait Hervé Marly. À la limite, c'est pas leur intérêt de parce que quelque part, ils ont pas tellement de choses à. Voilà, ils soutiennent la démarche très volontiers intellectuellement et tout ça, mais
le fait que des légions de nouveaux auteurs s'organisent, c'est pas forcément dans leur intérêt.
C'est quelque part, c'est
nous la concurrence.
Ça fait monter la concurrence.
Ouais, mais ils jouent le jeu.
Mais ils ont été cool. Ils disaient ça. C'était
plutôt dans l'humour. Quoi.
Voilà. C'était ironique. Mais c'est
ironique avec un fond de vrai. Mais voilà. Mais on est là quand même. Et ils ont été très gentils.
Non, mais c'est clair.
Pour les actions, donc il y avait cette consultation. Et donc, est-ce que juste pour finir avec ce qu'on a prévu de faire, et après comme ça on pourra parler de manière un peu plus informelle s'il y a des questions. En plus vite. Donc, juste pour revenir sur un truc, donc l'adhésion, c'est 15 euros. On devient membre à vie. Et donc, du coup, plutôt que de repayer la cotisation tous les ans, ce qu'on ne veut pas faire, on fera une fois par an ou une fois tous les 18 mois. Enfin, on verra la périodicité nécessaire pour obtenir les fonds dont on a besoin. On fera un projet participatif où on ne veut pas juste agiter la CBI en disant de donner des sous à la société des auteurs de jeux. Non, on veut faire un vrai truc, produire un objet, pas un jeu, parce qu'on n'est pas éditeur. Pour le coup, on est preneur de vos pistes. Nous, on était parti sur peut-être plus un livre qui est plus facile à produire parce qu'on est plusieurs graphistes ou du métier de l'édition dans le CA. Enfin, voilà. Donc ça, on peut le faire. Et ça pourrait être, par exemple, on peut imaginer un livre qui s'appellerait 3D et un crayon, d'accord ? Qui, dedans, dans ce petit bouquin format poche que tu peux emmener au camping avec tes gosses, tu as des règles de jeu utilisables, jouables avec 3D et un crayon. Et s'il y a besoin d'une fiche comme Rolls-Royce Edges ou Williams, la fiche, elle est dans le bouquin. Tu peux la photocopier ou la télécharger sur le site. Sauf que dans ce bouquin, tu as des règles de Catala, de Boza, de Jabouchi, de... Et donc, c'est cool. Et donc, tu as plein de règles de jeu dans ton bouquin. Et je pense, au vu de ce qui s'est déjà fait, je me rappelle quand Ignacy Trevicek avait fait des... Je ne sais pas si vous l'avez vu passer il y a quelques années, des livres d'anecdotes qui s'appelaient Board Games at Tell Story. Il avait levé 15 000 $ et 25 000 $ avec ces bouquins-là. Et c'était juste des anecdotes de game designers connus. Il ne parlait même pas de théorie de game design ou quoi que ce soit. C'était juste qu'il racontait des trucs rigolos. Et il avait énormément d'argent, donc c'est cool. Donc je pense qu'avec quelque chose... Alors, pour moi, ça aurait plusieurs côtés positifs. Déjà, c'est que ça va nous faire vivre, nous. Parce que du coup, on va dire, tous les adhérents de la SAGE, vous êtes auteurs de jeux, cool. Et on vous met à contrib, ceux qui veulent, vous avez 6 mois pour nous pondre les règles d'un jeu avec 3D et un crayon. Évidemment, vous resterez propriétaire des droits, et si vous voulez le replacer après chez un éditeur, il ne faudra pas s'étonner que 3 ans plus tard, il y ait 50 jeux avec 3D et un crayon. Qui... Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça va nous faire vivre, nous, parce que comme ça, ça va être, je pense, positif de créer quelque chose tous ensemble, plutôt que d'être juste là, on est rassemblés, on attend que les administrations disent oui. Non, on va faire quelque chose tous ensemble. Et d'autre part, ça va nous permettre de toucher un public beaucoup plus large que nous seuls, si on avait tous à donner 15 euros chaque année. Là, je pense qu'il y a plein de joueurs qui vont être intéressés pour acheter ce livre-là. Et donc, à mon avis, on se fera beaucoup plus d'argent pour faire vivre l'association que si on avait fait 15 balles par tête.
C'est plus rassembleur.
C'est plus rassembleur. Ça montre qu'on vit, qu'on sert à quelque chose, entre guillemets. Parce que sinon, notre travail va être hyper obscur. On va envoyer des mails à la GSA. C'est un super héros, quoi. Tu vois, ça se voit pas.
C'est une démarche créative. On n'est pas dans l'administratif d'adhésion répétitive.
Et vu que les objectifs sont quand même à long terme, on a peur sinon aussi, si on faisait chaque année une adhésion, c'est que les gens disent, mais de toute façon, ça sert à rien, ils avancent pas.
Y a pas on sait pas ce qu'ils font.
On arrête d'adhérer, quoi. Et que finalement, on perde le nombre d'adhérents et que.
On soit plus crédible parce qu'on a plus que 20 auteurs.
Voilà. Mais en tant que joueur, c'est intéressant parce qu'on met 15 euros ou on met quelque chose, c'est du militantisme en fait. Donc on récupère quelque chose qui va nous servir, qui va nous toujours intéresser, mais en même temps on a financé quelque chose. Quoi. Donc je trouve que c'est intéressant.
Pense aussi, c'est clair.
Cool.
Voilà, c'est juste.
Voilà, est-ce que ça vous paraît clair à tout le monde? Est-ce que ça vous paraît cool ou est-ce qu'il y en a qui sont pas contents?
Pas contents.
Non, ça va? Bon. Ok, il est 6 sur moins le quart.
Faut voir la pratique. Dans quelques années, on sera peut-être. Mais
On se laisse une chance. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des trucs à dire, qui arrivaient avec des interrogations spécifiques ou de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et qui veulent savoir des trucs spécifiques?
Sur l'asso?
Ouais, par exemple.
Est-ce que vous avez tous des badges?
Ouais, c'est ça
que
Alors, est-ce que des non-adhérents, on peut leur donner un badge? Ça va vous mettre la pression.
Même les non-adhérents, on va leur filer des badges. Parce que...
Par contre, c'est un badge.
On va pas commencer à pointer tout le monde, mais on compte sur vous. Si on vous donne un badge, on espère que vous allez adhérer.
Mais est-ce qu'on peut adhérer maintenant? Parce que c'était ma question sur Facebook, il m'a pas répondu.
Ah, je suis désolé parce que je suis en vacances depuis le début de la semaine et j'avoue que je suis normalement je suis le lynx de Facebook et que je. Alors adhérer sur les si on peut, mais alors en toute franchise c'est beaucoup plus simple de le faire par internet pour nous, c'est vachement mieux, je te jure. Parce que sinon c'est de la paperasse, il faut qu'on arrive à trouver Romaric, lui filer les papiers, il faut que lui en arrivant il aille à la banque, qu'ensuite il aille sur internet, qu'il crée ton compte à la main, etc. Si tu vas sur le net, tu mets tes infos tout seul, tu passes par PayPal, pim c'est fait, c'est super.
Tu peux faire du one shot hein, sur
PayPal. Alors, t'as pas besoin, tu peux. Tu... Si, il te faut PayPal. Il te faut un compte PayPal.
Si t'as une carte bleue, ça va.
Si t'as
pas de carte bleue et que.
Pardon. En fait, c'est que par PayPal. Mais. Oui. Je sais. J'ai jamais. Moi, j'ai un compte PayPal, donc quand j'ai essayé, j'avais déjà mon compte PayPal. Je sais pas si t'as... quand t'as pas compte PayPal, si juste avec ta carte, tu peux y arriver. Ouais, bon, bah alors tu vois, tu peux. Voilà, tu peux sans PayPal. Enfin, ça passe par PayPal. T'es pas obligé d'avoir un compte PayPal. Mais ça passera par PayPal, parce que c'est notre plateforme. Voilà. Et voilà. Bref. On a fait les super badges. C'est des trucs super, pas importants, mais quand même, ça fait plaisir.
C'était pas toi. C'était APEL qui a dit, est-ce que...
Je vous fais passer, fais tourner. Tout le monde en prend un, que vous soyez adhérent ou pas, prenez-en un. J'espère que si
vous voulez filer à quelqu'un qui est adhérent...
D'adhérent ? Alors, moi, avant de partir en vacances, on était 104. Donc, on en a à peu près un ou deux par jour depuis 2-3 semaines. Donc, ouais, on devrait être à peu près à 110, sachant que sur l'été, ça va sans doute se ralentir. Mais tu vois, en un mois d'ouverture du site et des adhésions, on a eu 104 adhérents. Ouais, moi, je trouve ça cool. Après, vu que j'ai du mal à juger de la réelle population globale des auteurs de jeux francophones, je ne sais pas si c'est... Je pense aussi. Ah ouais, clairement, ouais. Et puis, c'était spontané. Les mecs n'ont pas cherché. Ils y sont allés. Donc, c'est cool.
On est tant que ça.
Moi, je pense qu'on est francophone, ouais, je pense. Parce que tu comptes pas. Enfin, je sais pas, tu vas au off de Cannes, tu vas sur tous les festoches, tous les mecs, ils ont juste leur petit proto. On est plein, en fait, parce que t'as juste ton petit jeu, même si t'as un boulot à côté, tu kiffes de créer ton jeu, t'es auteur de jeu, il n'y a pas de raison. C'est pas parce que t'es pas édité que t'es pas auteur de jeu, je suis désolé.
Je pensais pas qu'on vous invitait autant sur PEL, là, au concours de PEL. Ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont eu 180 jeux qui ont été envoyés par 200 auteurs.
Voilà. Boulogne, chaque année, c'est entre 100 et 150 mecs qui se présentent, et c'est pas toujours les mêmes tous les ans.
Non, mais attends, Boulogne, non, ça serait beaucoup plus.
Ah oui, c'est payant du coup.
Ça bloque à 100, c'est fini. Dès qu'à 100, ils terminent les 20.
Ah oui, c'est ça, oui, t'as raison. Oui, c'est ça.
Parce qu'avant, ils avaient.
Oui, c'est
vrai.
Et là,
au FIP,
c'est 160, je crois.
160, ouais.
Oui, mais après,
c'est pas forcément les mêmes.
Les 400, ils sont pas tous.
Ah, du groupe Facebook, tu parles ?
Non, mais on parle pas d'édité ou pas, là.
Mais là, pour être adhérent, il faut pas être édité, il faut juste avoir la volonté de l'être.
Donc c'est ça. Et même si t'as pas créé de proto et tu veux être adhérent pour nous donner 15 balles, tu peux. Ça nous dérange pas. Non, je plaisante. C'est mieux d'être auteur de jeu. En fait, il y a un bouton faire un don. Si tu veux juste nous soutenir, sur la page d'accueil, tu as un bouton faire un don pour pas fausser nos stats.
Il y a certains auteurs qui ont donné plus aussi.
Je me permets de signaler la venue de Xavier Béret, qui vient ici représenter le réseau des cafés ludiques et qui a une petite intervention à faire pour nous, auteurs de jeu. On a fini l'ordre du jour. Non, on a fini l'ordre du jour. Tu peux venir, Xavier, prends une chaise. Non, t'en as pas.
Et tu tournes sur toi pour t'adresser à toi.
Tiens, on lui fait une petite place, ouais, s'il vous plaît. Non, on a fini l'ordre du jour. On était plutôt dans l'informel de qu'est-ce qu'on papote. Et donc, si tu veux intervenir, c'est maintenant. Vas-y.
D'accord. Bonjour à tous. Oui, je m'appelle Xavier.
Bonjour, Xavier.
J'ai un café ludique à Rennes. Depuis quelques temps, on réfléchit quelques temps, c'est 3 ans, à peu près 3-4 ans. On réfléchit à constituer un réseau des cafés ludiques, à la base avec les barrages jeux associatifs à Lyon, Nancy et à créer un archi-jeu dans la Drôme. Le réseau s'est constitué de façon réelle à Cannes dernier, en février. Aujourd'hui, on est une petite vingtaine de structures adhérentes au réseau, 14 pleinement en activité, 4 porteurs de projets qui devrait ouvrir dans l'année. L'idée du réseau des cafés ludiques
est triple. La première, dire que les cafés ludiques existent, que c'est une pratique différente, que c'est mettre du jeu à disposition d'une clientèle dans un cadre de convivialité, de bar, d'une part, soutenir des porteurs de projets qui veulent ouvrir des cafés ludiques dans leur donnant ou expliquant les contraintes, les risques, les modèles économiques, les choix qui sont pertinents ou pas.
Mutualiser les bonnes pratiques.
Mutualiser les bonnes pratiques. Ça, c'est le troisième point.
C'est qu'il a duré 3 heures hier, donc là, vous nous avez fait 1 heure.
Super.
Mutualiser les bonnes pratiques. Ouais. Mutualiser les bonnes pratiques entre les différents cafés qui sont existants et permettre des synergies entre des modèles qui sont proches ou pas. Ça dépend des villes qui sont proches ou pas, qui sont comparables dans nos pratiques quotidiennes. Donc voilà, on est très contents. On est très contents aussi que pas mal de groupements d'auteurs se réunissent régulièrement ou ponctuellement dans des cafés ludiques pour montrer ce que c'est que la création de jeu, pour travailler leur prototype entre eux ou vers un public plus ou moins averti qui fréquente nos cafés ludiques, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, comme à peu près les auteurs de jeux, de toute façon, sont répartis eux aussi sur l'ensemble du territoire.
À Bordeaux, il n'y a personne.
À Bordeaux, il n'y a pas d'auteur.
Je te jure, c'est pas possible parce que sur la carte interactive, autour de Bordeaux, il y a 0 adhérent à la salle, 0 auteur à part.
Ouais.
Incroyable.
C'est incroyable.
Désert, quoi.
Il n'y a pas d'idée.
Il se passe un truc autour de Bordeaux, je ne sais pas.
Il y en a un qui est dans le trophée, il faudrait qu'on fasse le tour d'ailleurs de tous ceux qui sont dans le trophée.
Oui, on ira après. Vas-y, pardon.
Et il y a des cafés publics à Bordeaux.
Oui. Non, mais il y a sans doute des auteurs, mais bref, ça m'a fait marrer de voir qu'il n'y avait aucun adhérent. Il y a une zone blanche là, il n'y a personne. Ouais.
Mais voilà. Donc je ne vais pas citer des groupes d'auteurs, mais c'est cool. Il y a des réflexions qui sont en cours, qui sont vraiment balbutiantes, mais qui sont en cours. L'un de nos objets, en fait on a des valeurs communes au sein du réseau des cafés ludiques, on ne veut pas accepter toutes les structures qui font du jeu de société pour garder une sorte d'homogénéité entre nous et de valeurs communes. L'une de ces valeurs est de promouvoir le jeu de société en tant qu'objet culturel, parce qu'on est convaincu que le jeu fait culture. En tout cas nous, on est convaincu. Et qu'il permet différentes choses. On a une réflexion en interne. Ouais, je vais essayer d'aller vite. On a une réflexion en interne sur l'usage commercial du jeu de société en tant qu'objet culturel, puisque c'est notre pratique. Aujourd'hui, on fait du chiffre d'affaires, plus ou moins important, selon nos modèles, pour financer différentes choses, grâce à vos créations. Parce que sans jeu, il n'y a pas de café jeu. Enfin, c'est con, mais ce serait qu'un café. Mais c'est exactement ça. Et aujourd'hui, dans l'ensemble des démarches culturelles, les objets culturels qui ont un usage commercial ont mis en place des financements pour soutenir la création. Ça existe dans tous les domaines culturels. Aujourd'hui, si je diffuse de la musique, je dois payer mon droit d'auteur et je dois payer ma SACEM. Si je diffuse des livres, je dois payer des droits également pour le livre. Si je dois payer des œuvres d'art, enfin si je diffuse des œuvres d'art, je vais payer aussi des droits. Si je diffuse des créations de théâtre, par exemple, je mets en scène une pièce de théâtre, je vais devoir payer des droits ceux qui ont créé la pièce de théâtre, etc., etc. On peut multiplier les objets culturels. C'est pas pour les comparer entre eux. C'est juste pour dire que c'est droits existent et sont reconnus du fait de l'usage commercial du jeu de société. Un usage commercial, c'est parce que j'en tire profit. Contrairement à n'importe Madame Michu là, qui va acheter son jeu à la boutique Sortilège ou Terre de Jeu, c'est un usage privé. Elle va faire jouer ses potes, ses enfants, sa femme, son qui en veut, mais ce n'est pas un usage commercial. Elle ne va pas financer, elle ne va pas gagner de l'argent grâce à ce jeu. Aujourd'hui, on est vraiment sur un balbutiement de réflexion. Mais en tout cas, si ou quand les choses se mettront en place autour de l'objet culturel, sachez que ça va prendre écho forcément chez nous, parce qu'il y a ça à mettre en place. Pour nous, il y a ça à mettre en place, pas qu'au sein des cafés ludiques, parce que qui en tire profit ? Les cafés ludiques, les médiathèques, les ludothèques.
Concrètement, ce que tu essaies de nous dire, c'est que donc, si tu as Jack et l'oreille magique et que tu le fais jouer plein de que tu veux pouvoir le faire jouer autant de fois que tu veux, faudrait théoriquement que tu payes tant à tel organisme qui récolterait tous les droits comme la SACEM le fait pour les musiciens, qui seraient des droits d'utilisation commerciale de nos créations, et qui après nous les reverseraient, c'est ça?
Alors, le combien et le comment,
oui, non, ça, on ne parle pas là-dessus. Non, mais dans le principe.
Mais dans le principe, c'est ça.
Ce serait ça.
Dans le principe, d'accord. C'est ça.
Pour vous revendiquez le fait de payer, quoi.
Oui.
Vous êtes sacrément courageux, maintenant. Mais n'importe quoi.
C'est juste très beau.
Si. Non, mais tu paieras quand même l'objet, et en plus, non seulement tu payes l'objet. Alors, si on prend un exemple très concret, une bibliothèque qui achète un livre l'achète pas au prix public. Elle l'achète beaucoup plus cher.
Comme un disque, une vidéo.
Pareil pour le disque, pareil pour la vidéo, le DVD, pareil pour tout, quoi. Sauf le jeu.
Et donc, si le jeu était considéré comme un objet culturel dans la loi quelque part, c'est ce qui en découlerait forcément.
Pour nous, ça va de pair. Et
la UEJ, ils en discutent un peu.
On réfléchit, on amorce la réflexion sur ça.
La UEJ ou...
Alors moi,
d'accord. Tu parles, tu parles au.
Aucune légitimité.
D'accord. Tu parles au nom des réseaux des cafés ludiques. D'accord.
Donc, je ne veux pas engager les éditeurs de jeux dans mon propos. Je parle des cafés ludiques qui ont un usage commercial. L'éditeur de jeu n'a pas l'usage commercial du jeu dans le même statut, puisque lui, il le vend.
Enfin, non, mais bien sûr, je voulais savoir si eux avaient amorcé cette réflexion, en fait.
Je pense pas.
D'accord.
C'est cool, en tout cas, tu donnes du grain à moudre, parce que c'est une question qui peut être vachement intéressante à saisir, nous, de notre côté aussi.
On y est. Excuse-moi, t'as une... Un listing, une liste de ceux qui sont adhérents sur les cafés ludiques, où ils se trouvent. Parce que dans le Nord, on a fait une association d'auteurs et on a renoncé aux cafés ludiques, très clairement, aussi bien pour aller animer, même à travers l'association, la grosse association de jeux qu'il y a sur l'île, et on est passé chez les ludothèques. Et on a déserté les cafés ludiques, parce que d'une part... c'est pas tout à fait un endroit pour le faire, si les gens viennent un peu, non seulement pour jouer, mais aussi très convivial, donc il y a beaucoup de bruit, on a du mal à avoir des endroits un peu réservés, même s'ils se disent café ludique, c'est tout juste si on ne gêne pas quand on vient faire des démonstrations de jeux. Ça devient compliqué parce qu'il faut mettre les verres, il y a un peu un conflit d'intérêts là, sur le côté commercial et le côté ludique. Et pareil, en termes de reconnaissance... Il ne nous aide pas à nous développer, si tu veux. L'association des jeux vient faire de la promotion, les cafés ludiques, on fait jouer les gens, mais en contrepartie, on dit, mais voilà, on a une association de jeux, vous pouvez venir là, en dehors d'un café, pour justement faire marcher le monde du jeu. Et autant ils prennent l'information en disant, venez, on fait des animations chez eux, autant le retour, zéro. Hein.
C'est pour ça qu'on zéro, est assez vigilant sur quelle structure rentre dans le réseau des cafés ludiques. Ouais. Parce qu'il y a, alors on a recensé 60 à 70 structures qui se dénomment café ludique, mais qui pour nous répondent pas toutes à l'ensemble de nos valeurs et des critères d'adhésion. Donc ces 60 à 70 structures n'ont pas forcément vocation à adhérer au réseau.
D'accord.
Notamment par rapport aux valeurs. Notamment parce que on a clairement identifié que pour certaines structures, le jeu est un prétexte et pas une valeur. Enfin,
c'est à la mode en plus.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que très clairement, le problème qu'on rencontre, c'est qu'on dit on vient faire une animation jeudi, vous nous réservez un petit endroit, puis il fait ah ouais, non, mais soir, là, il y a du monde, donc les deux tables là, voilà, c'est commercial, et puis tu te retrouves coincé dans un coin qui ne sert à rien. Et du coup, tu décourages non seulement les bénévoles qui viennent faire de l'animation, je te dis, en termes de retour, c'est zéro. Quoi. Donc, on a abandonné ce côté-là, café ludique, très clairement, sur tout ce qui peut exister sur l'île. Et on est passé avec les ludothèques, où on a de bien meilleures relations, et de bien meilleurs retours, et des gens beaucoup plus...
Il n'y a pas de bière.
C'est pas anti-mise.
Non,
mais,
d'accord, mais du coup,
tout... T'as une mauvaise expérience locale sur le territoire.
Ouais, local. C'est pour ça qu'avoir quelqu'un qui soit sur une philosophie de café ludique avec vraiment le jeu au cœur de son activité, on n'a pas vraiment trouvé ça. Pourtant, des gens qui l'affichent très clairement... On ne peut pas cacher le dernier bar avant la fin du monde, c'est là qu'on vient jouer. Hein.
Alors, clairement, là on a mis un nom, mais clairement, pour nous, ce n'est pas un barrage.
C'est
pas un café ludique.
Et pour le coup, le nombre d'exemples d'endroits où ça peut bien se passer, on en a plein. Moi, je sais qu'on y va toutes les semaines dans le bar de Xavier, donc je ne suis pas objectif, mais le Graal se réunit toutes les semaines dans le bar de Xavier. Et on y va, enfin, on n'a jamais de soucis. On sait que il y aura du bruit peut-être, et ça, c'est à nous, on le sait. On va pas lui demander de demander. On va pas demander aux clients de faire moins de bruit parce qu'on est là. Enfin, tu vois ça. On sait qu'il faut poser les verres. Bon, ça fait partie du truc. Les tables sont pas très grandes, c'est un café. Ok, on le sait, on fait avec. En revanche, on sait aussi que le public vient pas forcément pour jouer à nos protos. Et autant au début, tu sais, on voulait faire jouer les gens à nos prototypes, on s'est aperçu qu'en fait, ils avaient pas forcément envie de ça. Ils voulaient jouer à des jeux qu'ils avaient envie de jouer déjà entre eux. Oui, oui. Et ben dans ces cas-là, on a dit ok, bon, on va pas forcer le truc. On vient jouer entre nous, pour jouer entre nous avec nos prototypes, et c'est hyper productif malgré tout, si tu veux. C'est un lieu convivial où on y croise malgré tout pas mal de joueurs du réseau ludique rennais, les patrons de boutiques, enfin voilà, c'est, tu vois. Et donc, si tu veux, ça permet, tous ces joueurs qui viennent là à ce café ludique, qui est un lieu quand même, et ben ils viennent, ils voient nos prototypes, vas-y, c'est quoi, machin, tu veux pas venir le montrer, non, tu veux pas venir à l'assaut, fais voir, parle-moi-en, essaye-le, enfin, voilà. Malgré tout, c'est extrêmement profitable. Mais vraiment.
C'est pour ça que je ne les ai pas condamnés dans la globalité. Hein, c'est pour ça que je dis on a une mauvaise expérience. Je te demande si tu as des adresses de lieux qui soient un peu moins connues.
Pas les adhérents.
Sur lesquels on veut bien retenter l'expérience. Hein, c'est pas un problème.
Il n'y a pas d'adhérents.
De toute façon, vous allez faire un label, c'est ça, je suppose.
Un label, c'est beaucoup dire, mais.
Une sorte.
Une association, peut-être, un jour.
Il y a une association. Il y a des membres, il y a des stations, il y a des choses qui sont structurelles. Enfin, je ne sais pas si tu représentes la triche, toi, mais la triche à Lyon est secrétaire du réseau. La femme de l'ours à Nancy, il y en a le président.
Ok, cool.
Peut-être dans le pion à Clermont.
Merci d'être venu nous dire ça, Xavier.
De rien. J'avais juste un dernier tout petit point, c'est la notion de territoire ludique, mais c'est pour revenir sur la ludothèque. L'un de nos chantiers, c'est la notion de territoire ludique et dans quelle mesure un territoire ludique est vertueux, se connaît et travaille ensemble.
C'est de l'action en réseau, quoi.
Voilà. Donc boutique, auteur, éditeur et café-jeu et ludothèque, festival et fête de jeu.
Mais réunis localement, régionalement, qui se connaissent et agissent, qui mutualisent leurs trucs.
Ouais, bien sûr, association de joueurs.
Évidemment, ouais, c'est central. Ouais, c'est...
Ça marche.
Il n'y a pas un label ville ludique?
Ville ludique.
Ouais. Je sens qu'il y a quelque chose. Je crois
peut-être.
Ok, merci. On se rapproche. Je t'en remercie toi, Xavier, d'être passé. Tu nous as donné des bonnes idées. Ouais. Pour finir, peut-être, à moins que vous ayez envie encore qu'on discute et que vous ayez vraiment des sujets que vous voudriez aborder, vu qu'on s'approche des 18h, qu'on ne voulait pas dépasser l'heure. C'est passé. Bon, voilà.
Déjà, en fait, tu es payé à l'heure.
Non, je ne suis pas payé du tout, même. Non, mais est-ce que ça vous apparaît profitable de se réunir? Est-ce que vous avez appris des choses au moins? Bon, on avait dit qu'on parlait un peu des adhésions. C'est cool qu'on ait 104 adhésions. Après, je ne sais pas et je ne veux pas savoir qui est adhérent ou pas ici. On a filé les badges, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir besoin. Autant on pensait pas le faire vraiment de manière proactive, pas être obligé de le faire. On s'aperçoit que peut-être qu'il va falloir essayer de mettre un petit coup de hey, engagez-vous, qui disait adhérer quoi. On va avoir besoin, si on veut avoir plus de monde pour discuter avec les AGSA, etc. Là, à ce rythme-là, je pense qu'on ne va pas arriver à faire péter les scores beaucoup. Et donc, si ceux d'entre vous qui ont déjà adhéré peuvent demander à ceux qui connaissent d'adhérer, parce que 15 balles, c'est pas beaucoup. Après, chacun est libre. Si vous n'avez pas envie, parce que vous trouvez que ça ne sert à rien ou que ça ne vous concerne pas, etc., vous êtes libre, clairement.
Mais n'hésitez pas à en parler autour de vous.
N'hésitez pas à en parler autour de vous.
Par exemple, les festivals, c'est un bon endroit pour faire de la pro. Est-ce que, par exemple, il y a des flyers qui sont laissés, des trucs comme ça, pour dire aux gens qui sont à l'espace proto, etc.
Voilà. Ils ne savaient pas.
Voilà, mais ouais, non, mais je sais.
Que les festivals, c'est le bon endroit pour. Il faut peut-être mettre un flyer, on peut les imprimer, nous, quand on va dans les petites données.
C'est annoncé dans le programme, déjà, de Paris Ludique, ça a été annoncé dans ce programme-là, mais c'est vrai qu'on peut faire mieux, quoi.
Ouais, on peut faire mieux. On a une commission événementielle qui s'occupe de
tout. Juste rebondir sur ce que dit Henri, c'est vraiment fondamental qu'on le fasse, nous, à l'échelle des associations et du territoire. Parce que là, aujourd'hui, sur les auteurs de proto, je veux dire, quelque part, on a un petit peu le dessus du panier, les gens qui ont un peu d'expérience. Mais moi, ce que je vois dans l'association, c'est qu'il y a des gens qui n'osent pas se lancer. Ouais. Et ce qu'on met en démarche dans l'association des auteurs de jeux, c'est dire, ben, venez avec nous dans les festivals. Et on accompagne les jeunes auteurs parce qu'ils... Ils ne savent pas comment faire pour s'inscrire. Ils s'y prennent vachement trop tard, parce qu'il faut le faire très à l'avance. Ils ont un peu peur de présenter leur prototype. Et du coup, bah un peu comme je pense sur certaines associations, on y va à plusieurs. Quoi. Et du coup, on les accompagne. Et c'est dans les associations qu'on trouve les nouveaux auteurs, ceux qui n'oseraient pas, ceux qui font un peu en amateur, dans lesquels on peut dire, mais ça peut devenir une passion un peu plus forte. Et du coup, bah, si tu viens chez nous, déjà, c'est un premier pas. C'est vraiment le premier pas. Et le deuxième pas, c'est la SAGE. C'est vraiment au-dessus. On le voit, nous, comme un niveau, je ne vais pas dire qui chapeaute le tout, mais qui n'est pas du tout du même niveau qu'on a dans nos associations, mais qui permet déjà de découvrir ce monde-là. Et c'est... Très récemment, on a fait venir des jeunes qui ne pensaient pas pouvoir un jour participer à un concours. Pour eux, tu vois, c'était déjà beaucoup trop. Après, il faut reconnaître que dans les concours, il y en a beaucoup qui sont fermés. Il y a des énormes sélections. PEL, c'est très difficile. Ici aussi, c'est très difficile d'y accéder. Il y a peu de festivals en France qui font des concours ouverts. C'est difficile de trouver quelques tables. Orléans-Joux, j'ai un festival que j'ai un peu défendu.
Enfin, pour moi, c'est clairement pas le boulot de la SAGE. C'est le boulot de chaque
d'accord.
Et aussi, les gens, à un moment donné, il va falloir qu'ils se prennent par la main. Oui. Là-dessus,
c'est ce que je dis.
Pour moi, c'est pas une histoire d'asso. On est tous des grands garçons, des grandes filles. Si on veut y aller, il faut se renseigner un tout petit peu. Ok, on est...
C'est au travers de l'association.
Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, il faut qu'on se rencontre à mi-chemin. T'as raison, il faut se prendre. Quand tu veux faire les choses, il faut se prendre par la peau du truc. Mais ce que tu disais était très juste. Ça coûte pas grand-chose de foutre des flyers dans le concours.
Oui, ça, oui.
Voilà. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à le faire de prime abord. On démarre, hein, on fait des erreurs. Mais c'est pareil. En fait, on n'a pas l'intention, par exemple, sur ce genre de festoche, d'avoir un stand avec un kakémono. Ici, c'est la SAGE. Personne ne viendra nous voir de tout le week-end. On va s'épuiser. C'est de l'argent qu'on préfère dépenser dans autre chose utile pour l'association, du temps, pour tous les adhérents, les bénévoles et tout. C'est nul. Par contre, mettre effectivement une pile de flyers. Et ce qui serait intéressant, on y a parlé, je ne sais plus où, mais ce serait intéressant de bosser avec le Protolab, par exemple. Parce que Martin Wittberg, par l'organisation du Protolab, il travaille avec tous les concours d'auteurs qui se produisent toute l'année pour culminer vers Cannes ou ceux qui ont été primés ou quoi que ce soit, bref, dans les autres concours, ils ont accès au Protolab, d'accord ? Travailler avec toutes ces structures-là, nous, en mettant du flyer, en essayant de communiquer par celui-là, oui, c'est un truc qu'il faut qu'on fasse, clairement, ouais. Ouais, du flyer et tout, il faut qu'on le fasse. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas... Mais pour ce point-là, il faut le faire.
On est quelques-uns à avoir joué au proto là au concours et on en a parlé. Bon là ils sont coincés parce qu'ils sont dans leur
concours. Ils sont sur leur table, ouais.
Mais n'empêche, voilà, c'est à nous de faire le taf de leur en parler. Mais après.
Il faut les deux. Il faut que l'info soit à dispo pour qu'on puisse tomber dessus par hasard. Il faut que les gens ils se prennent par le cul pour aller chercher l'info. Et il faut que l'info, ils aillent la donner à ceux qui en auraient besoin.
Juste un petit commentaire pour améliorer les prochaines réunions. Ça aurait été bien d'envoyer un petit email pour dire où est-ce que la réunion se passait. J'ai vu sur le site que c'était à 17h, que c'était appartenait.
Alors, le truc, c'est qu'on ne savait pas où c'était nous-mêmes, en fait. Si tu veux, en fait, 10 minutes avant qu'on était dans le théâtre derrière. On s'est dit, merde, c'est fermé, putain. Donc, si tu veux, c'est pas évident. On a mis un certain temps à trouver les lumières, là. Non, c'est pas... Si tu veux, franchement, l'organisation, c'est... Non, mais
oui,
enfin,
voilà.
Ouais. Mais on va essayer de fermer le petit email, c'est bien.
T'enregistres tout de base, parce qu'on va progresser
normalement. Ouais, on a une bonne marge de progression.
Merci à vous, en tout cas, de votre temps investi aussi. Merci.
En espérant que ce soit utile au final, qu'on espère avoir des trucs vraiment concrets et qu'il se passe des vrais trucs. C'est du long terme, donc c'est pas tout de suite. Mais déjà, on a fait le site, déjà, on a fait l'asso, déjà, on a 100 adhérents. En 6 mois, c'est pas mal, quoi.
On crée une communauté. Ça paraît pas, mais c'est important.
Si, c'est bien.
Moi, je vois avec mes collègues belges frontaliers, quoi. Du coup, ils viennent. Ils sont aussi dans les associations en Belgique, mais ils passent la frontière.
Le collectif ludique Extratoff, il va être sur la SAGE, là. Il m'a contacté. Il faut que je les mette en ligne quand je reviens.
Voilà. Et du coup, on finit par se connaître et changer des choses.
C'est le but.
Et c'est comme ça que tu peux avoir une projection, dire on va être 400, 500. Je pense que même on pourrait être plus. Parce que des petits auteurs qui osent pas s'en servir, qu'on ne connaît pas, avec ça, avec le fait qu'on prêche un petit peu la bonne parole là, ils vont apparaître. On va voir que c'est très très riche en fait ce milieu-là. Ouais.
Les prochains rassemblements, vas-y Rémi, pardon.
Juste alors, avec les maisons d'édition, craignaient les assemblements d'auteurs. Mais là où ils n'ont peut-être pas percuté, ça fait une émulation qui n'existait pas. Et donc, je sais que nous, depuis quelques jours, on a énormément progressé.
Ouais, nous aussi.
Et ça, c'est eux qui en profitent directement.
Mais tu sais, je pense pas qu'ils aient peur des collectifs d'auteurs. Là, quand je disais ça, c'était moi quand je commençais à parler pourcentage, revendication, truc, machin. Ça, il y en a plein qui se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bolchevique, enfin, toi. Mais oui, les collectifs, je pense pas que ça leur fasse peur. Au contraire, Mathieu Desplous, par exemple, disait que lui, il s'était aperçu que ça donnait des jeux de meilleure qualité. Parce qu'on les travaille entre auteurs et qu'on se donne des idées, qu'on se donne, nous, notre savoir-faire entre nous. Et que ça porte les jeux, évidemment, c'est clair.
Oui, et puis c'est sûr, avoir une liste d'auteurs, pour savoir qui sont les auteurs en France, pouvoir voir sur quel jeu ils travaillent, quel type de jeu ils travaillent. Même pour les éditeurs, je pense que ça pourrait être utile d'avoir une sorte de listing des auteurs. Et de
ouais, alors ça, on ne peut pas le faire. Enfin, ça va être compliqué techniquement, parce qu'on a, on y a voulu, hein, en mettant le site, on y en a parlé, de faire des fiches, que chaque auteur pourrait remplir sa fiche, mettre ses jeux édités, ses machins.
Ce qu'ils font en Allemagne.
Techniquement, ça va être compliqué.
En Allemagne, il y a...
Et puis c'était un petit peu... Comment s'appelle la maison des auteurs qui est avant nous?
Ouais.
On a vu au Festival des Jeux de Cannes. Ouais, Festival des Jeux de Cannes, on a vu la maison des auteurs qui était représentée. Ils ont pas mal parlé du passé.
Ouais.
Et ce que j'en ai aperçu, c'est qu'ils avaient à un moment donné peut-être raté un coche, c'est qu'ils ont été à un moment donné plus défenseurs de droits de certains en particulier et pas du groupe et pas de la démarche d'auteur en général. Et que si on commence à dire, bah tiens, il y a un tel. Il a fait tel jeu, peut-être qu'à un moment donné...
Bah disons que c'est vrai que ça, la négociation commerciale, ça s'arrête, c'est notre limite, ouais. Quoi. On ne peut pas négocier
comme
ça,
tu vois.
On n'est pas là pour faire de la pub, ou, tu vois. C'est à chacun de faire sa, tu vois, son propre promotion. Enfin,
on préfère rester beaucoup très...
Mais on en a parlé à un moment, on voulait...
L'une des problématiques d'un auteur, c'est avoir de la visibilité auprès des éditeurs.
Ouais, mais en fait, je ne suis pas sûr que s'il y avait un fichier de 400 auteurs, tu aurais plus de visibilité, en fait. J'en suis pas persuadé. Mais on en est tous là. Le truc, il faut rencontrer les gens, se créer son réseau. Il n'y a pas de secret, quoi. Voilà. Et tous les sites, après, je ne leur jette pas la pierre, mais Créaludis, et après, il y a eu aussi, comment il s'appelle? Il y en avait d'autres. Ludo, je ne sais pas quoi. Fabrique Ludique, ouais, voilà. Il y en a plein qui essaient comme ça de faire des portails, des trucs, machin. Bon, tant mieux. Moi, je ne suis pas client parce que moi, j'ai d'autres façons de travailler. Je n'ai pas envie de mettre mes protos en ligne, pas pour des raisons de protection. C'est parce qu'ils bougent souvent, parce que je préfère rencontrer les gens en vrai. Parce que voilà, c'est ma façon de bosser. Mais bon, si ça marche leur truc, tant mieux. Mais je veux dire, là, pour le coup, on est dans autre chose que la sage. Voilà, c'est, je trouve, je pense. Après, si toute la base d'adhérents demandait à ce qu'on fasse des fiches pour auteurs et qu'on puisse faire notre promo sur le site, on le ferait. Et on trouverait des solutions. Là, actuellement, ça a paru compliqué techniquement à mettre en place et à maintenir. Donc, pour l'instant, on n'a pas fait. Voilà.
Et puis, c'est pas le souhait.
Non, mais c'est sûr,
on sent pas que c'est le souhait du groupe.
Ok, bah, merci à tout le monde d'être venu. Alors, le prochain, c'est BGF, Bruxelles Game Festival, la prochaine réunion pour ceux qui y seront. Ensuite, c'est à Lillebonne fin novembre. Fin novembre, il y a un festival à Lillebonne, il existe, oui. Vous n'ouvrez pas des yeux, il existe, il est là. Il y a un festival de jeux, apparemment, ils ont quand même, je ne sais plus, 15 000 personnes sur ou 6 000, enfin, un gros chiffre, un truc à 3-0, sur tout le week-end. Donc, il y aura ils nous proposent de sonoriser une réunion de la Sage, enregistrer tout avec micro, des chaises et de la lumière et tout. Incroyable. Donc il y aura une réunion de la SAGE sur place, et voilà, et ensuite ce sera pas à Essen, donc pour l'instant il n'y a pas de suite, on verra. On va essayer d'en faire là dans la première année pas mal de réunions au fur et à mesure, pour informer, pour montrer qu'on existe, pour discuter comme on l'a fait aujourd'hui, pour dire bah voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que tout est bien compris, qu'est-ce qui se passe, et puis voilà.
Ce qui est sûr après, c'est qu'au Festival des Jeux de Cannes, l'année prochaine, il y aura de nouveau
une Assemblée Générale.
Et on espère que la consultation aura lieu à l'automne, de sorte qu'on puisse avoir des premiers résultats à ce moment.
Oui.
On verra si c'est tenable, mais c'est ce qu'on espère.
Et puis on verra après dans la foulée comment on évolue. Si on fait périodiquement des réunions comme celle-ci, parce que c'est profitable de manière entre guillemets démocratique, ou si c'est juste pour parler et que ça n'amène rien, bah, on n'en fera pas forcément. Genre.